Merci, cher Lucien, d'abord d'être présent parmi nous. Je sais que le sujet t'intéresse, comme il nous intéresse tous. Donc, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, bon, il faut commencer par dire que malheureusement, un colloque consacré aux doctrines constitutionnelles autoritaires et totalitaires ne peut pas être aujourd'hui un colloque d'historiens seulement. Il n'est pas nécessaire, je crois, d'insister sur le fait que ce thème n'a pas perdu son actualité. Et pourtant, la question, me semble-t-il, notamment en France, est assez peu explorée, surtout dans cette dimension comparative qu'on a voulu ici lui donner. Je veux dire que la question des discours juridiques et particulièrement du droit constitutionnel, des discours de justification, des régimes qualifiés dans l'intitulé de ce colloque d'État autoritaire ou totalitaire, cette question me semble importante et je veux tout de suite laisser de côté les problèmes que posent les qualificatifs autoritaires, totalitaires. Ils sont des signes sur le titre, mais ils n'engagent pas aucun des participants, ni aucun de ceux qui nous écoutent, de manière conceptuelle. Voilà. Ce ne sont pas des concepts, ce sont de simples signes. Or, la question des discours est importante parce qu'à ma connaissance, aucun régime politique, et même le plus autoritaire, et plus certainement encore le plus totalitaire, si cela a un sens, aucun régime ne laisse ouverte la question de sa propre légitimité. Et donc, ça produit toujours, et je dis ça produit, un des discours de justification, c'est-à-dire de légitimation. Et ces discours qui sont contrôlés plus ou moins fermement, plus ou moins strictement par l'autorité politique elle-même, n'ont pas évidemment vocation à dire la vérité ni la réalité du régime. Ils sont d'abord là pour masquer essentiellement ces réalités. Et de ce point de vue, ce sont des discours idéologiques au sens marxien le plus traditionnel de ce terme. Mais ils sont là aussi pour fermer et clore sur ses propres présupposés l'espace du discours politique dans un régime ou dans une société que de tels régimes assujettissent. Et cette fonction de clôture du discours politique qu'assument les discours officiels ou étroitement contrôlés s'exerce à travers la prétention de l'État au ce que j'appellerais le monopole de la parole légitime, un monopole de la parole légitime sur sa propre légitimité. Il s'agit donc aussi, par ces discours, de, en quelque sorte, de saturer l'espace discursif de la politique et d'étouffer ainsi toute concurrence qui serait, par le fait même qu'elle serait concurrentielle, de caractère libéral ou démocratique, ou vue comme telle. Sur cette question de la légitimité. C'est la principale raison, je crois, pour laquelle ces régimes produisent du discours et ne se contentent pas, en quelque sorte, d'opprimer en silence. Alors, on a toutes les raisons nécessaires et suffisantes pour ne pas prendre ces discours au sérieux, bien sûr. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, ce sujet, c'est la seule position politique, morale, rationnelle et légitime qu'on peut avoir. Et pourtant, j'ai moi-même posé la question de savoir si il ne fallait pas prendre le droit, j'ai mis des guillemets, nazi au sérieux, et j'ai mis un point d'interrogation. Donc prendre aussi les discours de légitimation de ce droit nazi au sérieux. Et de même, je prendrai tout à l'heure les discours juridiques du marxisme-léninisme est-allemand au sérieux. Mais toujours préciser, je vais le repréciser aujourd'hui, qu'une telle prise au sérieux ne se justifiait que d'un point de vue heuristique, du point de vue de la connaissance. Pour une démarche de connaissance et de compréhension de ces discours et de ces régimes. Et donc pas, évidemment pas, d'un point de vue politique ou moral. Et j'ajoute que je considère que la formule selon laquelle comprendre serait déjà excusé, qu'a reprise un ancien Premier ministre de la France il y a quelques années, c'est particulièrement pour moi est profondément idiot, voilà, puisqu'on y confond le plan cognitif et le plan moral et politique. Et qui plus est, qui ne comprend pas son ennemi a déjà perdu une bataille et peut-être déjà même la guerre. Donc se donner la peine de comprendre et d'essayer de comprendre, ce doit être chercher à saisir là où les logiques à l'œuvre dans ces discours de légitimation de l'illégitime, ou, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, de justification de l'injustifiable. Pour ce faire, le point de vue moral ou politique, le point de vue des valeurs, ne suffit pas. C'est ce sur quoi j'ai toujours voulu insister. Il bloque même ce point de vue des valeurs, à mon avis, la porte d'entrée à la compréhension de ces discours. Donc, prendre au sérieux des discours juridiques aussi étranges et inquiétants et ignobles que ceux du nazisme, ou comme je vais le faire, du marxisme-léninisme, ça signifie mettre en parenthèse pour moi la question des valeurs pour entrer dans l'analyse structurale, syntaxique et sémantique de ces discours. Parce que le point de vue des valeurs est simplement trop simple. Oui, non. Trop massif, ça laisse pas de place à la nuance, et pour le dire de manière un peu provocatrice, en moi c'est le Weberien qui s'exprime, c'est un discours un peu trop simpliste, voire un peu trop bête pour comprendre ce qui est véritablement en jeu dans ces discours. En plus, ce discours des valeurs interdit de saisir les possibles, je dis les possibles, je postule rien, mais les possibles affinités discursives entre des langages totalitaires ou autoritaires. Parce que du point de vue des valeurs, il est bien évident que les buts poursuivis par le nazisme et le socialisme de la RDA s'opposent terme à terme. Mais du point de vue des logiques discursives, alors les choses apparaissent un peu autrement, même s'il ne s'agit pas de les assimiler, j'essaierai de le faire tout à l'heure, purement et simplement. Voilà. Mais cependant, le primat inconditionnel du politique sur le droit, le rôle respectif que joue l'ordre concret, d'un côté, mais ça ressemble du côté marxiste-léniniste à la base objective, et de l'autre, la superstructure, le facteur subjectif, comme disent les juristes est-allemands, ou ce que Carl Schmitt appelle la Gestaltung, c'est-à-dire la mise en forme volontaire de cet ordre concret de la communauté, il y a, à mon avis, quelques affinités objectif entre ces discours. J'y reviendrai dans mon propre exposé. De même, le principe de l'harmonie uniforme des intérêts individuels qui ne peuvent que congruer dans l'intérêt collectif ou communautaire. Et les conséquences sont entières quant à l'idée des droits subjectifs condamnés des deux côtés. L'équivalence qu'on en tire entre le droit et le devoir de l'individu au service du collectif. Sur le rôle du parti ou du mouvement dans la formation et l'interprétation du droit, sur le rapport qu'entretiennent droit et morale, sur le refus de tout principe de séparation des pouvoirs et l'affirmation de l'unité du pouvoir d'État, autant quand même de convergences structurelles ou structurales de ces discours. La question est, peut-on et veut-on les ignorer? Opposerons-nous ces discours purement et simplement parce que ils portent des valeurs s'opposer. Le grand danger que porte en elle ce genre d'analyse de ce que j'ai appelé les logiques discursives, c'est sans doute de montrer combien un certain nombre de discours contemporains, même pour parmi ceux qui poursuivent les buts les plus légitimes, ceux qui nous attirent quant à leur but, qui portent des valeurs auxquelles on devrait moralement et politiquement adhérer, fonctionne pourtant, dès qu'il se radicalise, selon des logiques autoritaires, voire totalitaires. Bon, autoritaires, voire totalitaires. J'en viens quand même à cette difficulté majeure que porte en lui le titre même de ce colloque. Peut-on différencier entre autoritarisme et totalitarisme? Le concept de totalitarisme est-il pertinent? Il est très discuté, il est très contesté, tout le monde le sait. Et je rappelle, je redis que le titre de ce colloque n'oblige aucun des intervenants a adhéré à ce concept de totalitarisme, ni même à la distinction entre autoritaire et totalitaire. Mais il n'y a pas tout de même une absence complète de raison au fait que j'ai souhaité conserver ces deux qualificatifs. D'abord, sur la notion de totalitarisme, je voudrais dire une chose très simple. Aucun régime ou système politique ou social n'est jamais pleinement totalitaire. Même les nazis n'ont pas réussi à totaliser effectivement, réellement, concrètement, la communauté allemande. Il reste toujours, il y a toujours eu des, ce que j'appellerais des restes de société dans la communauté. La même chose ça vaut s'agissant de régimes qui se sont réclamés du marxisme-léninisme. S'agissant du nazisme, je voudrais indiquer ou faire référence à un grand livre d'un des plus grands historiens du nazisme, Jan Kershaw, sur l'opinion allemande sous le nazisme, qui montre bien comment il y a toujours eu, à l'égard de la politique du Troisième Reich, des poches de résistance ou même seulement de réticence, plus ou moins organisées. C'est-à-dire pas seulement du rejet enfermé dans la conscience individuelle. Mais il explique aussi pourquoi il n'a pas intitulé son livre « L'opinion publique allemande sous le Troisième Reich ». Le problème est la publicité. Donc, il y a une ligne, si vous voulez, au-delà de laquelle votre ticket n'est plus valable. Chacun sait que le mode le plus mineur de la dissidence en régime totalitaire, c'est l'histoire drôle, la blague, sur les dirigeants, sur les potentats du régime. Tant qu'elle reste en dessous de la ceinture, c'est-à-dire la ceinture de sécurité bouclée autour de la sphère publique et de la société par la police politique, qui s'appelle Gestapo, Stasi, Securitate, le risque est faible, mais la plaisanterie ne doit jamais devenir publique. Et nul ne sait où passe la frontière entre le public et le privé. Et j'invite à relire le magnifique roman de Milan Kundera, La plaisanterie, à ce sujet. Donc, aucun pouvoir ne peut totaliser la société qui l'assujettit. Mais c'est bien le projet, quand même, de certains régimes. Et projet qui s'exprime à travers ces discours idéologiques de légitimation qui jouent sur et avec le mythe de l'uniformité des intérêts, bien compris des membres d'une collectivité populaire. Donc, le totalitarisme, pour moi, peut avoir un sens, et j'y tiens tout de même, non pas pour qualifier l'état réel d'une société, c'est pas pour qualifier l'état réel d'une société ou de son régime politique, mais pour qualifier les discours de légitimation. Ce sont des discours, ou pour reprendre une ancienne expression qui a déjà beaucoup vécu, ce sont des langages totalitaires qui m'intéressent. Or, le droit est l'un des instruments de cette domination, et les discours juridiques prennent alors en charge, comme on dit aujourd'hui, les éléments de langage de ce discours totalitaire, et au premier rang, cette indistinction, cette incapacité à distinguer le public, le privé, ainsi que la négation de toute divergence légitime des intérêts. C'est un thème vraiment commun du nazisme et des discours que j'ai étudiés plus récemment, du marxisme-léninisme. L'intérêt de la communauté, disait Karl Lahrens, un important juriste néo-hegelien nazi, l'intérêt de la communauté surmonte la divergence des intérêts. Toute divergence peut se résoudre dans l'unité objective de l'intérêt commun, d'où le rejet de la catégorie du droit subjectif dans les langages totalitaires. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, dans des langages, disons, autoritaires, entre guillemets, on a le même rejet unanime du droit subjectif, qui me paraît être une question assez cruciale. Est-ce que ce n'est pas là, précisément, le point sur lequel pourrait être établi une distinction entre doctrine totalitaire et doctrine autoritaire? Car la différence entre les deux, ce n'est pas, je ne crois pas, une question de degré de brutalité des réponses juridiques ou extra-juridiques d'un régime envers ses dissidents, qu'ils soient réels ou supposés. Les régimes autoritaires sont tout aussi plutôt que des régimes que l'on peut, ou que des régimes portés par, pour être très précis, portés par un discours que l'on peut qualifier de totalitaire. Est-ce que il n'y aurait pas, est-ce qu'il y a quelque part une différence de nature qui serait révélée par le droit et ce discours entre autoritarisme et totalitarisme? Voilà une hypothèse qui n'est bien sûr qu'une simple hypothèse et qui n'a pas non plus pour objectif de justifier des régimes qui seraient seulement autoritaires par rapport à des régimes qui seraient complètement totalitaires. Différence de nature ou différence de degré, c'est une question que je me pose, et malheureusement je n'ai étudié que des régimes portés par un discours qu'on peut dire totalitaire. Donc j'attends beaucoup et je suis sûr que je vais apprendre beaucoup de cette journée. Les discours autoritaires ne maintiennent-ils pas une certaine distinction du public et du privé, du politique et de la sphère sociale? Là, je me souviens juste d'un petit voyage très court dans la Tunisie de Ben Ali. On voyait les flics partout. On sentait, on parlait avec les gens. Bon. Et tout le monde sait ce qu'il en était de ce régime. Mais dans la rue, les gens se promenaient. Les garçons et les filles, main dans la main, ça me rappelle une chanson célèbre. Et on avait l'impression d'une certaine liberté personnelle, c'est-à-dire que c'est lorsque le niveau du politique, lorsque la question politique émerge, que la répression entre en jeu. Alors que, comme j'ai essayé de le dire, de le montrer pour le régime nazi, chacun est dans sa vie personnelle, même la plus privée et même sa vie sexuelle, le fonctionnaire de sa communauté. Et là, la distinction entre public et privé est, dans le discours, je rappelle, éradiquée. Mais évidemment, ça a aussi des effets réels, c'est bien clair. Ou bien les discours autoritaires font-ils, comme le font les discours totalitaires, voilà, ça je viens de le dire, des individus, des fonctionnaires de leur communauté. Rejettent-ils l'idée de droit subjectif, même s'ils la réduisent à la sphère infra-politique, si on peut l'appeler comme ça? Y a-t-il encore une place dans un régime autoritaire et dans les discours de ces régimes pour la divergence des intérêts et donc pour quelque chose qui ressemble quand même pour nous au droit, c'est-à-dire sa capacité à trancher, à arbitrer entre des intérêts, en conflit? Alors c'est ça le problème du droit nazi que je retrouve en pays marxiste-léniniste, c'est comme ça qu'il s'appelait. Quelle est la place du droit dès lors qu'on nie même la possibilité d'une divergence légitime des intérêts individuels? Voilà, c'est peut-être autour de ces questions que cette distinction entre autoritaire et totalitaire pourrait prendre sens. Mais peut-être pas. Je n'ai donné aucune instruction, ils peuvent le confirmer, j'espère, aux intervenants. Ils sont libres, même de critiquer les présupposés que je viens d'exposer. Je fais comme je fais d'habitude, j'ai désigné une aire ou un espace de discours en leur laissant la plus complète liberté sur la manière, sur les objets concrets sur lesquels ils voulaient parler et sur la manière dont ils entendaient en parler. Voilà. Car dans le monde académique, en tout cas, là doit régner, je crois, le plus grand libéralisme. Et ça n'est pas toujours le cas. Mon ami Olivier Beau le montre suffisamment. Et il y a des histoires encore récentes qui nous avertissent de ce danger. Mais il faut dire, dans le monde académique, en tout cas, le libéralisme ne doit pas être contesté, même si l'adjectif libéral est devenu en français un gros méchant mot aussi chez les universitaires. Bien, je crois qu'ils se tirent à eux-mêmes, non pas une balle dans le pied, mais une balle dans le cerveau. Là, je crois aussi qu'il convient de faire l'analyse structurale de ces discours antilibéraux et on aurait quelques surprises. Quoi qu'il en soit, organisateur de ce colloque, je garantis donc à tous les intervenants, du haut de mon autorité totale, voilà, la plus complète liberté de parole, on réglera les comptes après. Hein. D'accord. Non, je n'ai aucun goût ni pour le totalitarisme, ni pour l'autoritarisme, seulement un goût prononcé pour la liberté de penser et de parole. Donc je les remercie bien sincèrement d'avoir accepté de participer à ce colloque. Et je remercie aussi mon ami Lucien Jaume d'avoir accepté de venir présider cette première séance. Voilà, merci.